y a c'est monsieur Dumouche directement qui va aborder alors la suite des opérations, vu que j'avais essentiellement pour mission la problématique de compétence. Donc c'est monsieur Dumouche qui va s'en expliquer pour la suite.
Alors, je vais essayer de ne pas faire que lire, monsieur le président, mesdames et messieurs. Avant de vous laisser délibérer, je voudrais vous parler des conditions avec lesquelles s'est faite cette inspection par madame Guéchet et qui me vaut d'être devant vous. Alors, au préalable, je dois vous dire que j'ai été suspendu 3 mois, il y a 2 ans, avec demande de réformer ma manière de donner cours. Donc, j'ai pris les moyens. J'ai d'abord fait une remédiation avec un professeur de religion qui a mis ici un certificat. Et voilà, ici, tout le travail effectué avec toutes les compétences, toutes les finalités, les thématiques du cours qui a été fait. Je peux vous le passer si vous voulez. Enfin, il est là, en tout cas. Alors, j'ai mis en place un dossier complet, je disais, voilà. Alors, il était essentiel que cette inspection se fasse dans de bonnes conditions. Pour cela, le président de la conférence épiscopale, dont frère Van de Put est le délégué, il le marque lui-même sur son rescrit pour me retirer le visa, avait averti plusieurs fois que mon inspection devait être accomplie par une personne compétente dans la méthodologie thomiste que j'applique. Thomiste, ça veut dire saint Thomas d'Aquin. Monseigneur Léonard précise même par écrit le nom de cet inspecteur, vicaire épiscopal de l'enseignement de Namur, docteur en théologie. Mon PO et frère Van de Put avaient été avertis depuis 2012. Loin d'en tenir compte, ils ont choisi une inspectrice dotée d'une autre formation, étrangère à l'épistémologie réaliste. D'après elle, tous les efforts que j'ai faits sont donc nuls et non avenus. Je suis visiblement un professeur incompétent. Alors, le mode d'inspection de Mme Guéchet n'était pas adapté à une circonstance aussi grave, puisque c'était mon visa. Le frère Berger avait menacé dans ses inspections de me retirer mon visa il y a 2 ans. Mme Guéchet m'a fait prévenir début janvier 2015 de son passage. Je lui ai aussitôt transmis l'avis de Mgr Léonard, supérieur hiérarchique. Je lui ai clairement signifié mon refus de la voir m'inspecter. Malgré cela, en mars 2015, Mme Guéchet s'est présentée par surprise en classe à 8h30 avec le directeur qui n'était pas prévenu de sa venue et qui a dû annuler ses rendez-vous. Elle a alors usé de craintes révérentielles et s'est imposée dans ma classe sans que je puisse protester. Elle a constaté mon désarroi tout au long de sa présence, l'a consignée dans... Non, c'est Mme Guéchet qui fait partie du CEGEC. Mme Myriam Guéchet, qui était sur la liste de...
Elle est quoi, alors ? On dit inspectrice, mais elle est inspectrice diocésaine pour le diocèse de Tours.
Le hasard a fait que les 2 séances auxquelles elle a assisté étaient consacrées à des contrôles certificatifs. Un sur table et l'autre par exposé oral des élèves, je ne suis pas intervenu. Il faut savoir que pendant les inspections de frère Berger, dans les exposés, parfois j'intervenais pour rajouter un point, et frère Berger m'avait dit de cesser cela. Je ne suis pas intervenu, sauf sur l'assistance du directeur qui constatait ma détresse, quelques minutes en fin du 2e cours et de l'exposé de 4 élèves de 3e, pour compléter un point technique en rapport avec leur matière sur les miracles de Lourdes. Malgré cela, elle a jugé ma pédagogie comme définitivement mauvaise et mon intervention qui portait sur la différence entre les miracles et les prodiges, dont le directeur m'a félicité chaudement, comme ne clarifiant pas le débat. Madame Guéchet étant venue par surprise, je n'ai pas pu lui présenter ce classeur de thématiques, n'est-ce pas, qui est en pièce jointe 2. Elle a par contre emporté une farde d'élèves, prise au hasard en 3e et en 4e, sans m'en avertir, ni me poser la question de l'ordre du cours, ni a fortiori me demander un cours en ordre. C'était visiblement 2 fardes incomplètes et en désordre, puisqu'elle signale que la totalité des travaux de groupe faits par les élèves et des exposés sont en fin d'un chapitre qui s'appelle « Thème en dehors du cours » et dans lequel il y avait juste une feuille, normalement, les attentats de Charlie. Il manquait tous les contrôles formatifs et beaucoup de matière. Les feuilles des dossiers étaient mélangées. En conséquence, Mme Guéchet confond des synthèses d'élèves avec des feuilles qui auraient été données par moi. Juger de mon cours ainsi n'est pas adapté ni sérieux, étant donné la gravité de la situation. Alors ensuite, l'absence de points positifs, il n'y en a pas un seul dans son rapport, conduit à une légitime suspicion sur l'objectivité de Mme Guéchet. Alors je voudrais donner quelques exemples. Mon avocat vous a expliqué que je n'ai pas eu la totalité du rapport de Mme Guéchet qu'il m'a été communiqué par frère Bande de Put en recommandé le 1er décembre. Donc il manquait 3 pages toutes les...
Maintenant, vous les avez.
Je les ai eus le 1er décembre, mais j'ai été convoqué par Frère Van de Putte en juillet sans avoir les pièces pour me défendre puisqu'il manquait la moitié du rapport. Bon, alors toujours est-il que, pour vous montrer un petit peu, les élèves travaillaient et j'étais à mon bureau pour surveiller. Les consignes étaient clairement indiquées sur la feuille. Je peux vous communiquer l'interrogation qu'ils ont eu à faire. Qui est ici, vous voyez, c'est un texte d'un groupe Alliage dont l'un des membres s'est suicidé et l'autre, au contraire, est retourné à la vie de famille, chez lui, a découvert un sens à sa vie de cette façon-là. Donc, vous voyez, elle dit, il ne marque pas la thématique, elle est marquée en début de contrôle ici, il ne marque pas les critères de notation, ils sont marqués. Critères de notation, premièrement, précision de la compétence psychologique, précision de la compétence éthique, etc., etc. Donc, c'est incompréhensible. Donc, elle coche pas de critères précisés. Et encore plus surprenant, pendant un contrôle silencieux en présence du directeur, le professeur ne gère pas les interactions dans la classe. Il n'y a pas d'interaction dans la classe. C'est un contrôle sur table. Conclusion de cette partie-là, sur la manière. Hein. On est surpris à la lecture de cette inspection qui semble chercher à mettre en avant le négatif et ressemble plus à une agression. J'ajoute que des indices graves, concordants et documentés me permettent de mettre en doute l'objectivité de Mme Guéchet vis-à-vis de moi. Si vous me demandez, mon avocat vous racontera. Je demande que cette inspection soit annulée et qu'il soit enfin fait droit à ma demande écrite, sans cesse réitérée, de Mgr Léonard, d'une inspection adaptée et objectivement distincte du groupe qui était objet de ma plainte. Puisque j'ai déposé une plainte au pénal, qui a été, le juge Le Cuivre m'a demandé de la transformer en plainte au civil. L'abbé Henri Ganty s'engage à l'objectivité. La demande de Mgr Léonard est valable puisqu'il est le supérieur légal en tant que président de la conférence épiscopale de Frère Van de Putte. Je m'arrête là pour ce qui concerne la présentation de cette partie-là. Et donc, peut-être mon avocat a quelque chose à dire, puisqu'après je rentrerai dans le fond.
Ben, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous avez estimé que vous étiez compétent. Évidemment, les problèmes doivent être exposés, mais tous les problèmes sont toujours finalement reliés, malgré votre décision, à la décision interne de l'Église. Donc c'est là que je me pose toujours la question. Vous avez été présent dans l'Église parce que vous avez estimé que vous étiez compétent. Donc voilà, je vous laisse apprécier cette compétence. Mais tout est directement lié à l'Église, aussi bien les inspections, aussi bien la manière dont ça s'est déroulé et le recours. Donc ça pose question.
Voilà, Monsieur le Président, dois-je continuer sur le fond ? Seulement, là, si vous le voulez, si vous le permettez, je voudrais demander qu'on n'hésite pas à m'interrompre, parce que là, ça porte sur la matière. Je vous explique. Alors, à m'interrompre, à me poser des questions.
Chacun son tour, sinon on
s'en sort. En effet, Mme Guéchet étant venue le jour d'un contrôle sur table, le jour donc d'un exposé certificatif, elle n'a pas pu vérifier ma pédagogie, et donc c'est porté sur la matière du cours. Les reproches portent essentiellement sur la matière philosophique et théologique, en particulier l'épistémologie qu'elle signale comme étant sans valeur. Et c'est vrai, il y a un contrôle d'élèves qui regarde, je leur demande, situez-moi telle proposition, et une proposition indiquée marque, au plan historique, Jésus-Christ a existé, fait-elle partie de la philosophie ou de la théologie ? Il marque philosophie, au plan historique, Jésus a-t-il existé ? Elle me dit, c'est n'importe quoi, c'est de l'histoire. Donc, je voudrais expliquer maintenant pourquoi il fallait quelqu'un de compétent en épistémologie pour pouvoir répondre à ça. Regardez, je mets un petit schéma ici. Vous avez ici, je pense, si je reconstitue la manière dont Mme Guéchet voit l'épistémologie, les matières, histoire, philosophie, morale, posées un peu les unes à côté des autres. Vous voyez ? Et donc, si vous demandez « Jésus-Christ a existé historiquement, où est-ce que ça se situe ?», vous direz tous « histoire », puisque c'est historique, n'est-ce pas ? Ce n'est pas philosophie. Elle me dit, philosophie, ça s'occupe du sens de la vie. Bon, très bien. Moi, maintenant, voilà ce que j'ai donné comme compétence à mes élèves. C'est une épistémologie spéciale qui date de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, première partie. Vous allez voir, c'est simple. C'est très simple. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, celle-ci. Pour classer une science, on doit distinguer un objet de la science et la raison par laquelle on regarde cet objet. Par exemple, ces lunettes. Si je les regarde comme étant composées de métal qui a été travaillé, c'est la métallurgie. C'est le même objet matériel, les lunettes. La raison, c'est en tant que travailler dans une usine, c'est de la métallurgie. Si je les regarde en tant qu'elles sont faites d'atomes et de molécules, c'est de la physique. C'est le même objet matériel, mais la raison n'est pas la même. Et voilà comment on classe les sciences. C'est le premier objet. Et donc, regardez ce que j'apprends à mes élèves d'abord, c'est que, et c'est fondamental, c'est en troisième, c'est que la philosophie, voilà, ici, imaginez le réel, l'ensemble du réel. La philosophie a comme objet le réel, et que la raison avec laquelle elle regarde le réel, c'est en tant qu'elle est connaissable par tous les moyens naturels de l'intelligence. Tous, l'expérience, ça peut être un témoignage, mais c'est beaucoup moins solide, ça peut être le raisonnement, l'induction, déduction, etc. Tous les moyens naturels. Et voyez ici, j'ai mis la théologie, tout le domaine spécifiquement catholique, qui regarde. Alors, c'est très important d'être précis. Là, je leur dis, l'objet matériel, c'est pas tout le réel, c'est la question du salut. Le salut. Et la raison, c'est en tant qu'il est révélé par Dieu. Donc, ça implique une foi. Résultat, là, c'est le domaine de la raison, là, c'est le domaine de la foi. Madame Guéchet critique en disant « Ah, ça veut dire que la foi ne serait pas raisonnable. » Je lui explique « Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. » Ça veut dire que là, le moyen de connaître, c'est la raison seule, et là, c'est la confiance en Dieu, et après, on peut réfléchir à sa foi. Mais vous voyez, tout le temps, c'était comme ça. Forcément, puisque tout, c'est une inspection mauvaise, ma matière est mauvaise. Maintenant, je veux bien m'arrêter. Mais si vous me laissez 2 minutes, j'arrête, parce que je peux aller très vite, en 3 minutes, c'est terminé, pour que vous voyez. Bon, du coup, ils ont un contrôle. Ils demandent, est-ce que Jésus-Christ a existé historiquement ? Est-ce que c'est quelque chose de réel ? Est-ce que ça peut être atteint naturellement par les méthodes naturelles ? Eh bien, la réponse est oui, donc l'histoire fait partie de la philosophie. Et voyez, le schéma que ça donne chez... Alors, je vous prouverai maintenant par le programme, ça donne ça. Vous avez la philosophie avec dedans cette grande partie. Le deuxième principe qui forme l'épistémologie, et vous voyez qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse, hein. On ne peut pas juger comme ça, c'est ceci. J'ai essayé de le trouver, ce schéma. Bon, peu importe, je vais vous l'expliquer comme ça. Pour classer les sciences, une science est à l'intérieur d'une autre quand son objet et sa raison sont contenus. Par exemple, la physique, c'est tout ce qui est matériel connu par l'outil mathématique, c'est la physique moderne, hein, l'expérimentation, etc. Vous pouvez m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord, mais je définirai ça comme ça. Eh bien, à l'intérieur, il y a l'optique. Pourquoi ? Parce que l'optique, c'est la lumière, les ondes électromagnétiques, donc c'est une partie de la matière et la même raison connue par l'outil mathématique et l'expérimentation. Donc, vous voyez comment on classe les sciences. Mais ça, je ne vois pas ça en troisième, je vois ça en cinquième. En troisième, la seule chose qui leur est demandée, c'est donc ceci. Alors, tous les reproches de Mme Guéchet, vous allez les comprendre maintenant. Donc, elle me dit...
Ça, c'est
l'épistémologie. Voilà. Compétence 6, apprendre l'épistémologie. Contrôle, citez-moi certaines propositions. Vous allez voir si vous trouvez ça trop compliqué ou trop simple. Jésus-Christ est Dieu. Vous le situez où ? Ah, vous ne suivez pas ? Oui, oui. Bon. D'accord, je veux bien, mais n'hésitez pas à m'interrompre. C'est évidemment domaine de la foi, c'est absolument pas démontrable par la raison. Seule la confiance peut y adhérer, etc., etc. Donc c'est là, ils doivent le situer. Mohammed est prophète de Dieu, il y a ce thème-là, il le situe ici, sauf que c'est de la théologie musulmane. C'est pas de la théologie catholique. Je sais pas... Tenez, alors, je vais pouvoir comme ça terminer assez rapidement. Je vais prendre les trucs où vraiment elle me critique. La voie d'accès des frères Bogdanov. Vous savez, les frères Bogdanov, ce sont des frères que vous avez tous vus à la télévision. Hein. Donc... C'est vrai. Alors, je vous la résume. Les frères Bogdanov disent ceci. Ben oui. Les frères Bogdanov disent ceci, la matière contient des constantes extraordinaires, réglées, mais extraordinairement 50 décimales après la virgule. Ils remontent dans le passé, ils arrivent à un moment donné au mur de Planck et ils disent, donc avant ça a dû être tellement concentré, tellement chaud au niveau du Big Bang qu'on ne peut même pas calculer, ça dépasse les équations, d'accord ? Et ensuite ils disent, mais c'est tellement réglé mathématiquement qu'il faut poser un être premier, une sorte de dieu qu'ils appellent le dieu de Spinoza, qui est un mathématicien. Bon, Madame Guéchet avec cette épistémologie-là, à votre avis, elle situe où les voies de frère Bogdanov qu'on voit donc en cinquième? Elle peut pas. Elle peut pas. Regardez. Est-ce que c'est de la physique? Il y a de la physique. Le problème, c'est qu'après, il aborde la question d'un être premier qu'on ne peut pas atteindre par les mathématiques et l'expérimentation. Donc, alors, elle dit, dans sa critique, vous mélangez tout. Épistémologique, c'est complètement mélangé. Vous mélangez des disciplines. Mais regardez, par contre, si vous utilisez ça, tout devient simple. Ça fait partie, au départ, de la science physique. À un moment donné, quand ils franchissent le mur de Planck, donc quand c'est trop concentré, on sort de la physique moderne, on entre en philosophie de la matière. On peut raisonner. Et ensuite, quand il pose un être premier, on entre ici, entre les deux.
On est chez le grand architecte.
Voilà, c'est le déisme. Elle me dit, il est créationniste. Elle me dit, c'est texto dans le truc, il est créationniste. Le créationnisme, je vous rappelle ce que c'est quelque chose que je combats. Ça consiste, c'est la position théologique qui dit que Adam et Ève ont connu les dinosaures, que le monde a 7000 ans, c'est chez les évangéliques et les sunnites, actuellement en Turquie particulièrement. Donc c'est un littéralisme de la théologie. Où est-ce que se situe là-dedans le créationnisme biblique? Je vais vous répondre. Ça ne fait pas partie de cette épistémologie thomiste. Le créationnisme biblique, c'est l'exaltation de la théologie et on fait disparaître la philosophie. C'est-à-dire que tout le réel est compris par l'écriture. Le Coran explique même le Big Bang. Tout est marqué et donc on supprime la science. Ça n'a rien à voir. Mais oui. Le problème, c'est que je suis face à Madame Guéchet qui est là, qui ne cesse pas de me mettre des reproches, qui ne m'a pas vu, et je ne peux pas me défendre. Alors que, évidemment, Mgr Léonard, qui me connaît, que je fréquente depuis 20 ans, il sait parfaitement que c'est des reproches d'une personne qui a une autre formation. Elle est certainement formée en exégèse historiocritique, je suppose. Certainement. Mais ça fait partie des compétences. Alors vous pourrez me dire, et je terminerai par là, Monsieur le Président, est-ce que j'ai raison? Est-ce que la philosophie, c'est le sens de la vie ou est-ce que c'est vraiment dedans, en fait partie l'histoire? Eh bien, regardez, dans le programme de religion, ici, page 25, pratiquer le questionnement philosophique, c'est une attitude à développer dès le plus jeune âge, etc. Des questions comme le bonheur, ça c'est la philosophie éthique, la question de l'amour, philosophie du vivant, la question du mal, la question de la mort, la question de Dieu en philosophie, mais démontrer, toujours démontrer, pas Dieu cru, certes c'est la théologie, etc. Et elle, regardez, dans la philosophie fait partie aussi la critique avec une distance délibérée, la connaissance mathématique, scientifique, historique. Alors vous me direz, mais alors, les compétences qui sont par paquet, ben, le propre d'un professeur, c'est de les ordonner. Si je leur faisais un contrôle en disant, mais Jésus-Christ a existé, si tu es le moi, là-dedans, par rapport à ça, ben, d'accord, là, elle a raison, Madame Guéchet, mais si je veux leur donner une compétence épistémologique, je fais autrement. Elle dit, c'est trop compliqué pour eux. Ça vous a paru compliqué? Pas trop. Eh bien, eux, je vais vous dire, regardez, le côté extraordinaire de ces élèves, je leur mets des questions pièges. Les NDE, vous voyez ce que c'est les NDE? Expérience proche de la mort, des gens qui ont un arrêt cardiaque, qui voient quelque chose, où se situe-t-elle? Elle prend une copie d'élèves qui a marqué, c'est en philosophie parce qu'on est fondé sur des témoignages, donc c'est intéressant. Et elle dit, et c'est en théologie parce que ça parle de la doctrine, ça parle du salut, il y a une survie. Je lui mets bien, elle me dit, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve cet élève a raison. C'est d'abord de la philosophie. Et vous savez ce que dit l'Église? Elle dit que ce sujet de l'âme et de l'existence de Dieu font partie des préambules de la foi. Ça se situe ici, exactement ici. Voilà, je m'arrêterai là. Il y a plein d'autres critiques sur la matière, mais vous voyez que ça dépend évidemment de notre évêque, du magistère, qui est seul habilité à juger du contenu théologique d'un cours, puisqu'elle n'a pas pu vérifier ma pédagogie ce jour-là.
Essentiellement par ce qui nous semble le plus important. J'ose espérer que malgré la longueur du dossier qui vous a été remis, vous avez pu constater que fondamentalement, nous avons pris position, je dis nous parce que vous serez quand même de concert avec le prêtre martial, nous avons pris essentiellement position sur la forme et non pas sur le fond. Parce qu'il nous a semblé que c'était bien ça qui posait problème. Nous ne voulions pas aborder l'argument théologique, parce qu'il nous semblait qu'il était plus qu'important d'aborder aussi l'argument pédagogique. Et ça, c'est la forme. Alors, quitte à prendre quelques exemples, je vais en prendre aussi quelques-uns quand même, pour vous dire pourquoi, même si en prenant le texte...
Les rapports de parents ne sont pas aujourd'hui valables puisqu'ils ont été déjà sanctionnés.
Quand je vois sur un contrôle, donc une épreuve d'examen, question bonus sur la position de l'Église sur la peine de mort. On cite la position de l'Église. Nous avons vu en cours que l'Église reconnaît aux États la possibilité d'appliquer la peine de mort dans certains cas, tout en disant que, dans les pays où un État structuré existe, il n'y a plus de cas où c'est nécessaire, la prison à vie étant mieux. Je regrette, quand je vais dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est donc la référence dite théologique, au paragraphe 2266 et 2267, l'Église ne dit jamais que la prison à vie est le mieux. Mais les notes de cours du professeur le disent. Donc on fait passer son avis théologique comme étant la position de l'Église.
Qui dit qu'il vaut mieux la prison à vie que la peine de mort ? Par rapport à la peine de mort, la prison à vie est mieux, c'est ça qu'il veut dire.
Mais l'Église ne le dit pas.
Et qu'est-ce qu'elle dit alors ?
Je regrette.
J'ai bien écouté le pape il y a quelques semaines, il a dit pas de peine de mort nulle part. Mais je me réunis, on n'était pas trop contents.
Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est le pape qui l'a dit dernièrement. Et je me réfère à ce que l'Église dit avant que le pape François l'Église, dans
le catéchisme
de l'Église catholique qui parle de fond, je vais lire les deux paragraphes qui concernent la peine de mort. L'Église ne se prononce pas sur le fait qu'il vaut mieux la prison à vie.
Lui, il dit qu'il vaut mieux la prison à vie, la peine de mort, je suis assez d'accord avec lui. Hein.
Mais je viens d'accord avec lui, mais qu'on arrête de dire que c'est la position de l'Église.
Mais...
C'est là pour moi qu'il y a des déviations d'ordre pédagogique. Donc j'ai laissé M. Desmouches aller jusqu'au bout, je suis très
compliqué.
Je souhaiterais aller jusqu'au bout dans quelques exemples. Voilà.
Peine de mort, d'accord.
Donc, je prends un autre type d'exemple. Dans les travaux.
Elle dit quoi alors l'Église avant les déclarations du pape actuel ? Elle disait quoi à propos de la peine de mort ?
Elle s'arrête au cas précédent.
Si le professeur dit qu'il vaut quand même mieux une prison à vie plutôt qu'une condamnation à mort.
Mais Monsieur le Président.
Pourquoi est-ce que ça nous gêne ça ?
Ça me paraît différent. De dire que c'est l'avis du professeur que de dire que c'est l'avis de l'Église. Parce qu'alors, en disant...
Il est plus modéré, lui.
Oui.
Si je comprends bien, mais
c'est... Je vous donne un deuxième exemple.
On peut interpréter les phrases comme on veut, non ?
Non.
Allez-y.
Non, parce que on risque alors, à titre personnel, et surtout comme professeur de religion, de faire passer comme position d'Église ce qui n'est pas position d'Église. Et il y a des problèmes.
Alors, vous pouvez en exclure beaucoup à des propres religions.
Ah, mais...
Moi, j'interroge mes petits-fils et franchement.
Mais monsieur le Président,
on m'a demandé d'inspecter. Vous pouvez en retirer. Hein.
Monsieur le Président, on m'a demandé d'inspecter un professeur. J'ai inspecté un professeur. Je reste quand même étonné de lire dans les exposés, suite à partir de notes du cours, que concernant l'existence des anges, on va être mentionné encore. Mais il faut savoir qu'un dogme du Moyen-Âge dit que les anges ont été créés lors du Big Bang. Excusez, mais la théorie du Big Bang est venue largement après le Moyen-Âge. Je vais terminer par un avant-dernier exemple, le dernier, il est dans la mallette qui est là-bas. Je prends l'exemple d'interactivité des élèves. Et là, pour moi, c'est très concret. J'ai assisté à la leçon où un étudiant de rhétorique, donc l'année d'après, je peux aller dans l'enseignement supérieur. Si vous avez le document, c'est pas 56 et 57, du document, le 2 ou le 3, je crois, pas le plus gros. Document 2, pas 56 et 57, sur la franc-maçonnerie. Étudiant de Réto, le seul document écrit de son travail consiste en 2 pages A4, sur la franc-maçonnerie. Je me suis permis de prendre une page à quatre rien que pour détailler la façon dont la leçon a été présentée en classe. L'étudiante commence par dire la raison pour laquelle elle a pris ce sujet-là. explique aussi pourquoi elle n'a pas un dossier très détaillé, parce qu'elle n'a pas trouvé beaucoup d'éléments concernant la franc-maçonnerie. Et juste en dessous, en 4 ou 5 lignes, elle prend un copier-coller de Wikipédia. Bon. Excusez-moi, sur le plan de la pédagogie, on ne fera pas croire qu'elle avait peu de documentation. Ça, c'est une première chose.
Mais elle avait reçu mission de quoi ? Faire des recherches ?
De présenter son travail sur la franc-maçonnerie.
Et à mode actuel, elles vont voir sur
Wikipédia. Eh oui, mais alors qu'elle ne dise pas qu'elle n'a pas de documentation. Il en peut qu'il conseille à ses étudiants de ne pas aller trop souvent sur Internet, deux, de ne pas s'être rendu compte qu'elle avait été sur Internet, et trois, dans un exposé où le professeur a pris 3/4 du temps de parole par rapport à 1/4 du temps pour l'élève, avait déjà coté le travail 18 sur 20 avant qu'elle ne l'ait présenté en classe. Je regrette. Pour moi, ce n'est pas un travail de mythe de pédagogie. Et je pourrais multiplier les exemples, Monsieur le Président, pour garder comme moi. Et je vous invite, et ça nous dispensera d'être trop long, je vous invite à retourner.
C'est dommage qu'il ne donne plus cours, parce que j'irai l'écouter.
Ah mais, Monsieur le Président, prenez Internet, vous tapez Arnaud Dumouche, point, et vous aurez tous ces cours sur Internet. Je les ai écoutés, la plupart de ces cours, et contrairement à ce qui a été écrit quelque part, j'en ai parlé à la direction de l'époque, et contrairement à ce que M. Desmouches a écrit, je n'ai jamais dit à la direction de l'époque que je n'avais rien à reprocher à ces idéaux. Mais tous les témoignages oraux, là aussi, on leur fait dire ce qu'on veut.
Mais de manière synthétique, vous lui reprochez quoi
exactement ? Je lui reproche que depuis des années où il a été accompagné, où il demande clairement à son PO, dites-moi ce que vous me reprochez dans mes méthodes. Le PO lui a signalé, les inspections se sont succédées. Voyez le dossier, le document numéro 9 sur la chambre de repos de 2013, vous aurez l'historique de tout ce qui s'est passé avant que, enfin non, c'est depuis que l'autorité du culte a dû être concernée par cela. Et M. Dumouche...
Mais ça ne me dit pas ce que de manière synthétique vous lui reprochez. Dites-moi. Quoi ? Manque de pédagogie ? Ça ne correspond pas aux enseignements de l'Église ? C'est quoi ?
Non, non. Monsieur le Président, nous sommes bien d'accord, on ne se porte pas sur la théologie de l'Église.
Dites-moi ce qu'on lui reproche.
Je vais le faire, Monsieur le Président.
Voilà.
Je vais le faire.
En 5 lignes.
Mais j'en reprendrai simplement l'avis qui lui a été donné le 7 juillet par le frère provincial, qui est dans la ligne de l'avis précédent en 2013, au mois de juin, où M. Dumouche était menacé d'un retrait de visa. Et on avait mis en évidence... Voilà, ça me rappelle très long.
En 2013, il a obtenu un saut.
Non. Non, vous n'avez... Le document 9 ne va pas dans ce sens-là, M. le Président. La Chambre de recours de 2013 ne lui a pas donné gain de cause. C'est ce qui a amené l'RLPO à prendre la sanction disciplinaire dont question tout à l'heure.
J'ai eu 3 mois de suspension.
Voilà.
Qui s'intitulait comme ça. Tous les inspecteurs disent.
C'est
la même chose.
Entrevue.
Donc c'est vrai, ils n'ont pas cherché à comprendre le fond.
Avec M. Dumouche, en présence de l'inspecteur principal de notre animation d'école, qui était là comme simple secrétaire et rapporteur, le frère Patrick a écouté M. Dumouche avec les 2 feuilles qui figurent, sauf de ma part, dans le document 8 ou 9, enfin peu importe, le document 12. Voilà ce qu'écrivait donc le frère provincial le 7 juillet. Je pense avoir pris le temps nécessaire pour relire les 2 pages lues et commentées lors de la rencontre du 30 juin dernier, ainsi que les annexes qui étaient jointes. Cela dans l'esprit souhaité par la rencontre, entre guillemets, texte du frère provincial de l'époque, il s'agit d'une audition, non d'un débat, parce que cette procédure vous permettra de porter à ma connaissance des faits nouveaux relatifs au dernier rapport d'inspection et qui n'aurait peut-être pas été prise en compte jusqu'à présent. Relativement à cette inspection, je vous exprime d'abord mon étonnement face à ce que vous affirmez, c'est le document 14 pour ceux qui le jettent dans le dossier. Relativement à cette inspection, je vous exprime d'abord mon étonnement face à ce que vous affirmez à propos de Mme Guéché, j'ouvre les guillemets, citation de M. Dumouche, Je ne pouvais faire confiance à son expertise, sachant sa très grande proximité avec l'abbé Piton. Elle est inspectrice du diocèse de Tournai. L'abbé Piton est inspecteur délégué épiscopal de l'enseignement de Tournai. C'est difficile de ne pas se connaître un petit peu. N'est-ce pas mettre en doute son honnêteté intellectuelle dans la démarche inspectrice et ses compétences dans le domaine? Je crois qu'elle a le même titre scientifique que M. Dumouche. Je vous partage ci-dessous, je parle au nom de mon provincial ici, je vous partage ci-dessous mes réflexions sur base de votre document et sa présentation. J'ouvre les guillemets. Les changements radicaux apportés en 4 ans, je ferme les guillemets, ne sont pas aussi évidents que vous ne l'écrivez, puisque les rapports d'accompagnement de 2008 à 2011, donc qui ont précédé mon inspection, ainsi que les rapports d'inspection de 2013 et 2015, c'est-à-dire les miens et ceux de Mme Guéchet, reviennent avec des exemples à l'appui sur les mêmes lacunes de vos méthodes, tant d'enseignement que d'évaluation. Je prends un petit exemple au niveau de l'évaluation. Une classe de 6e, 25 élèves, 5 questions à l'examen du mois de juin. En bonne mathématiques, 5 fois 25, ça fait 125. J'ai relevé, en relisant toutes les copies, il y avait 88 questions qui avaient été cotées. Et d'autres, il n'y avait pas la moindre cotation à côté. J'ai constaté une deuxième chose, 2 élèves différents, pour la même question, avaient fait la même réponse. Dans un cas, la réponse était appréciée, bonne. Dans l'autre cas, la réponse était rejetée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça figure dans les rapports d'inspection. Je reviens au texte du frère provincial. Les changements radicaux apportés en 4 ans reviennent, avec des exemples à l'appui, sur les mêmes lacunes de vos méthodes, tant d'enseignement que d'évaluation. Je ne crois pas non plus qu'en supprimant tout contrôle et tout examen de matière, ce qu'il laissait supposer dans son interview, en n'ayant aucune intervention dans les cours, vous rencontrerez l'esprit du programme. Deuxième citation du texte de M. Dumouche pour son audition. Que me soit donné avec précision ce que je dois encore faire sur le plan pédagogique. Réponse du frère provincial. Une relecture des différents rapports de mention ci-dessus peut apporter un certain nombre de réponses à cette demande. Quant à la remédiation reçue de M. Salvaggio, le gros dossier que M. Dumouche a mis en évidence tout à l'heure, dont personne n'a connaissance, je pense. Quant à la remédiation reçue de M. Salvaggio, elle n'apporte rien de nouveau quant à la conception de certaines évaluations, conception que vous avez déjà exposée et qui figure dans les rapports des acolytes. À la lecture, je reçois que certains éléments positifs ne soient apparus que dans les échanges oraux, dont je, M. Provincial, n'ai pas été méditeur. Toutefois, j'ai eu accès à l'avis autorisé de M. l'abbé Dawaon, parce qu'une inspection positive d'amitié a toujours été occultée, citation de M. Dumouche. En communiquant ci-dessous quelques extraits du rapport de cette visite, je souhaite attirer votre attention sur la constance des remarques qui vous sont régulièrement répétées. Extrait du rapport de l'inspecteur l'abbé Dawaon, compétences didactiques, construction d'un parcours d'apprentissage. Le cours est expositif. C'est le professeur qui avance sa perception de la foi catholique. L'espace de réflexion des élèves est relativement restreint, sinon peut-être dans les travaux et les débats qu'il suscite. Deuxième élément de l'inspection de l'abbé Dawaon. Le nouveau programme n'est pas ignoré par le professeur. Je dois cependant constater qu'il y fait référence à partir des représentations théologiques et des chemins de pensée qui sont les siens. Troisième référence de l'abbé Dawaon. Les cours que j'ai observés tournent très nettement autour de la performance du professeur. La performance est de valeur, mais enseigner n'est-ce pas aussi apprendre aux élèves à apprendre? Je termine l'exposé de l'abbé Dawaon dans son rapport, compétences méthodologiques ou l'art de mettre l'élève en situation d'apprentissage en favorisant son questionnement, en travaillant ses représentations, en proposant des activités et des tâches d'intégration. Pour ce que j'ai pu voir, les cours du professeur sont le plus souvent des cours magistraux et des cours débat, questions des élèves et réponses du professeur. Fin de citation du rapport de l'abbé Dawaon. Le frère provincial reprend le texte. Enfin, je le prends à sa place. Je terminerai l'exposé de mes réflexions en précisant mon point de vue quant à votre conclusion. demande une inspection par l'abbé Henri Ganty, vicaire épiscopal de Namur, notamment dans cette finale. J'aimerais, chers frères, vous demander aujourd'hui d'appuyer cette demande que le PO me refuse depuis des années. Réponse du frère provincial, je n'appuierai pas votre demande pour deux raisons essentielles. Ce serait récuser gravement le mandat que l'Institut des frères des écoles chrétiennes présent en Belgique francophone a donné à l'Association des écoles assyriennes pour assurer, selon ses statuts et son règlement d'ordre intérieur, l'animation des écoles affiliées à cette association. Deuxième raison, ce serait désapprouver les rapports d'accompagnement et d'inspection que j'ai approuvés lorsque je vous ai informé que leurs conclusions pouvaient conduire au retrait de votre visa. L'entrevue, j'en ai plus pour longtemps, Monsieur le Président, l'entrevue que nous avons eue et la relecture des différents documents m'amènent à constater que la position d'attente qui était la mienne en 2013, c'est-à-dire on ne retirait pas le visa, mais on informait le membre du personnel qu'il était sous cette menace. La position d'attente qui était la mienne en 2013 n'a pas permis une remise en question profonde en vue d'une vraie adéquation de votre démarche avec l'esprit et la dynamique du programme de religion, souligné dans le texte du frère provincial, en âme et conscience. Il est donc de mon devoir d'autorité du culte, mandaté par la conférence épiscopale, de vous retirer le visa qui vous était précédemment accordé. Si je me réfère au décret, il a toutes les références de type plus juridique pour rappeler, voilà, il me semble, voilà, pardon, je le dis, si je me réfère au décret fixant le statut des membres du personnel, l'engagé à titre temporaire peut saisir la chambre de recours en cas de retrait de visa. Par analogie, une situation de retrait de visa, il me semble que ce recours vous est également ouvert et que vous pouvez saisir la chambre de recours composée conformément à l'article 80, paragraphe 2 de ce même décret. Le décret ne précise pas le délai en dehors lequel ce recours doit être introduit. J'estime qu'il faut alors s'en référer à celui de procédure disciplinaire qui est de 20 jours à dater de ce jour, donc du 7 juillet. Dans l'hypothèse où vous introduiriez ce recours, je vous serai gré de m'en aviser. De mon côté, j'informe le pouvoir organisateur de l'Institut Saint-Joseph de Châtelet, section enseignement secondaire, de la décision que je viens de prendre. Voilà, Monsieur le Président. Bien. Je vous
remercie. Vous avez quelque chose à ajouter ? Ben, j'aimerais rebondir, vu qu'on vient de le lire et j'en suis ravi, vu qu'on vient de vous dire, mandaté par la conférence épiscopale. Et c'est ce qu'on vient de vous dire le contraire, à savoir qu'on n'avait pas de recours auprès de l'épiscopat. C'est exactement ce qu'on vient de vous dire. Pourtant, c'est mandaté par la conférence épiscopale, donc c'est bien un recours interne auprès de Mgr Arpini qui est ouvert. L'autre point qui est également assez bizarre en soi, c'est que de suite, on vous dit on va examiner uniquement la pédagogie. Et tout ce qui a été expliqué, c'est de la théologie. On vous a dit l'Église dit ceci et M. Dumouche dit cela. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est de la théologie qu'on prétend ne pas respecter de manière conforme. Et l'inspection n'a été mise en place uniquement que par une branche bien spécifique d'un mouvement, dont on peut aller bien loin dans les considérations, vu que l'abbé Piton, qu'on a également fait les éloges, est à l'origine, à la base, d'un licenciement de M. Dumouche pour mettre à la place Mme Guéchet. Et vous avez M. Piton, vous avez Mme Guéchet, et lorsqu'on leur demande une contre-inspection, on vous dit non, ce serait mettre, entre guillemets, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a utilisé comme terme, mais récuser finalement le mandat. C'est tout simplement parce qu'on sait très bien que si on va voir de l'autre côté, l'autre manière de voir peut-être la théologie, eh bien ça va poser problème en soi et qu'on n'aboutirait pas à la décision que l'on espère et qui est cousue de fil blanc, à savoir le retrait du visa dont on doit s'expliquer aujourd'hui devant vous tout simplement. Donc je souhaitais quand même faire cette petite remarque par rapport à l'inspection qui a été menée, dont on vous a expliqué qu'elle était menée de manière assez bizarre, vu qu'on aboutit à aborder la manière dont on donne cours un jour où, in fine, on aboutit par surprise et que c'est simplement l'explication des travaux qui ont été mis en place par les élèves. Et on vous fait reproche également à M. Dumouche que, ben, notamment pour un travail, on a une référence à Wikipédia. Je pense qu'on ne peut pas faire reproche aux professeurs si les élèves font désormais usage de l'enseignement de l'Internet, et notamment de Wikipédia, qui, je pense, même un étudiant universitaire, dans un mémoire, aurait peut-être une référence à Wikipédia, et Dieu sait si pourtant on a un esprit critique au niveau de l'université. Donc on vous fait plein de reproches qui en soi, comme je vous le dis, bien, ne sont mis en place que pour aboutir à cette décision qui est bien voulue de la part de, l'abbé, de frère Van de Putte, pardon, sinon je vais encore me faire fustiger du regard de par la mauvaise appellation, et que lorsqu'on introduit les recours, ça pose problème, évidemment, en tant que tel. Voilà les derniers points que je voulais aborder.
Je vous remercie. Par question.
Je peux donner une phrase. Je suis très content que le frère me reproche d'avoir utilisé mal le magistère, parce que dans l'un des reproches qu'il fait, il me dit « Comment est-il possible que M. Dumouche utilise les repères du magistère après l'affaire Galilée ?» Après l'affaire Galilée. Voilà, c'est dedans. C'est texto. Je n'ai jamais pu répondre à ça. Je lui ai dit que l'affaire Galilée n'était pas une affaire du magistère. C'est un tribunal civil, à l'époque, qui avait pris ça. Bon, ça fait rien. Exactement. Tout à fait. Donc, je me sers des repères du magistère, c'est certain.
Voilà. Voilà, les débats sont clos. Nous rentrons notre avis dans les jours qui viennent, dans les semaines. Ne soyez pas trop impatients, je ne sais pas dans quel sens.
Voilà.
Voilà. Et l'avis sera rendu, ne vous inquiétez pas.
D'accord.
Voilà, vous pouvez.
Je vous remercie.
Merci, M. le Président.
Est-ce qu'il faut vous laisser des documents, des preuves? Non, ce n'est pas la peine. C'est pas, on croyait qu'il se désisterait et désiste pas, c'est pas gagné, tout à fait, hein. On ne sait pas ce qu'il pense.